RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, aujourd'hui RFI vous propose la rediffusion d'un grand reportage à Los Angeles, aux États-Unis. En septembre dernier, le maire de la ville, Eric Garcetti, a décrété l'état d'urgence pour les SDF et 4 mois plus tard, le conseil municipal votait un plan d'aide aux plus de 26 000 sans-abri qui vivent au bord des plages, sous les ponts des autoroutes, dans les rues de cette vaste cité du sud de la Californie. Los Angeles, c'est la deuxième ville des États-Unis en nombre de SDF après New York et avant Las Vegas. Mais cette ville a une particularité que l'on retrouve nulle part ailleurs dans le pays. C'est celle d'abriter en son centre-ville le plus grand campement de sans-abri, 2000 hommes et femmes rassemblés sur quelques rues avec leurs tentes, leurs affaires et leurs matelas. Ce paysage de désolation contraste avec les commerces de standing et la population aisée que l'on trouve autour de Skid Row et qui, petit à petit, gagne du terrain sur ce quartier. Skid Row, la ville des sans-abri, un grand reportage signé Tessa Groman.
Nous sommes dans le centre-ville de Los Angeles, à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville, de l'opéra et du palais de justice. Mais ici, les immeubles sont délabrés et les trottoirs jonchés de tentes, de bâches, de caddies et de matelas. Nous sommes à Skid Row, où vivent plus de 1700 SDF sur 1 km² de bitume. Cela fait près de 100 ans que le quartier attire les sans-abri. En 1975, la mairie a choisi de déplacer la plupart des services sociaux destinés aux SDF dans cet espace, une ville dans la ville.
Selon moi, depuis un an et demi, ça ressemble à une zone de guerre.
Suzanne Partovi dirige le département santé de l'association Homeless Healthcare Los Angeles qui vient en aide aux populations des sans-abri. Elle soigne les SDF de Skid Row depuis 11 ans.
C'est vraiment dur, on dirait une zone de guerre. Il y a ceux qui souffrent de troubles psychiatriques sévères. J'ai vu une femme sans pantalon, elle traînait son jean derrière elle avec juste une jambe à l'intérieur. J'ai arrêté un policier pour lui demander d'aller voir ce qui s'était passé et elle s'était fait violer. Elle a des vrais troubles psychiatriques, je la vois souvent. Elle n'a pas d'affaires personnelles, elle est sale. Elle est jeune, elle marche pieds nus au milieu de la rue et il y en a plusieurs comme elle. Et c'est ce qui donne ce sentiment de zone de guerre avec des gens égarés et confus. Et pour moi, c'est vraiment triste.
Au dernier recensement, la population des SDF à Los Angeles avait augmenté de 12% entre 2013 et 2015. La moitié d'entre eux sont des Afro-Américains, 70% sont des hommes, un tiers souffre de troubles mentaux et la même proportion d'addiction à l'alcool ou à la drogue. À Skid Row, les laissés-pour-compte ne sont pas uniquement dans la rue. Comme nous l'explique Pete White, le président et fondateur de LA Can, une organisation qui se bat pour les droits des SDF.
À Skid Row, la population tourne toujours autour de 13 à 15 000 personnes. Cela dit, la grande majorité de ces personnes sont à l'abri. Il y a 8500 logements sociaux permanents, il y a aussi 2200 logements temporaires ou de transition. Cela veut dire que vous y êtes logé pour un an ou deux en espérant que vous allez trouver un logement permanent. Mais quand vous regardez le taux de logements disponibles dans la ville, les logements abordables dans Los Angeles et les logements sociaux, il n'y en a pas suffisamment. Et donc ça bloque. Et parfois on arrive à placer quelques personnes dans les 2000 logements temporaires. Mais au final, ils se retrouvent dans la rue faute de logements permanents. Et les autres, ce sont ceux qui sont dans les centres d'hébergement. Donc globalement, entre les 8500 logements permanents et les logements temporaires, plus les centres d'hébergement, ce qui fait encore 5000 places, on arrive à 13 000 résidents. Et enfin, par-dessus tout ça, comme vous pouvez le voir en ce moment, il y a 1700 personnes qui vivent dans la rue.
On top of that, like you see currently, there's about 1700 individuals that are living on the streets. 70 organisations caritatives environ travaillent avec les SDF de Skid Row. The Midnight Mission est l'une des 5 associations les plus importantes du quartier. L'immeuble abrite des services d'urgence, d'hébergement et de réinsertion. L'organisation est entièrement financée par des fonds privés. Candace Schultz, la responsable de communication de la mission, nous fait une visite des lieux.
Voilà notre réfectoire. On y sert 3 repas par jour, 7 jours par semaine. On a servi environ 1 million de repas ces 3 dernières années. une grosse activité, donc, et ça fonctionne comme une machine.
It runs like a machine.
Voilà, là, on passe les doubles portes de sécurité. C'est l'étage de notre programme Vicène. Il prend en charge environ 250 hommes. Nous avons des dortoirs. C'est là que dorment les résidents. Il y a aussi une salle de sport.
La Midnight Mission ouvre aussi sa cour intérieure au SDF, 100 mètres carrés protégés par des grilles et des gardes pour ceux qui souhaitent s'extraire de la rue. Dans un coin de la cour, des barrières en métal délimitent un petit espace dans lequel sont installées des sortes de tentes mobiles, assez grandes pour s'y coucher et y ranger quelques affaires.
C'est l'étape supérieure après la cour, pour ceux qui envisagent de trouver un logement de transition. Il y a une mère qui vit là avec son fils en ce moment. L'objectif, c'est qu'il se réinsère, qu'il gagne suffisamment d'argent pour payer un logement temporaire. Et puis ensuite, ce sera permanent.
La Midnight Mission propose aussi un programme de désintoxication. Il se déroule sur un an. Sean Oney l'a suivi en 2013.
Ce qui s'est passé en fait, j'étais marié, j'avais une petite fille, j'ai eu une opération au cou et je me suis retrouvé accro aux antidouleurs. J'ai eu des soucis avec mon ex-femme, on a divorcé, j'ai perdu ma maison, je suis devenu accro à la méthamphétamine, je n'arrivais pas à m'arrêter. 6 mois avant tout ça, j'étais propriétaire de 2 voitures, j'étais marié, je travaillais, j'avais une maison et puis tout a disparu.
Aujourd'hui, Sean Oney a un logement et travaille pour la mission. Il gère les 17 000 bénévoles qui viennent donner de leur temps à l'association chaque année. À 600 mètres de là se trouve le Center for Harm Reduction, où le docteur Suzanne Partovi donne des consultations tous les jeudis. Il faut sonner pour entrer dans le hall, où des kits sanitaires sont en libre service pour les consommateurs de drogue. Seringues, eau stérile, filtre de protection pour les pipes de crack. Il y a aussi des sièges pour attendre son tour de consultation.
Simon? Simon, are you here? Okay, hey, how are you?
Suzanne Partovi ausculte une dizaine de personnes dans la journée. Beaucoup viennent se faire soigner pour des abcès au bras liés aux piqûres de seringues, comme cet ancien vétéran de la guerre du Vietnam. Le centre propose aussi des traitements de désintoxication sur 3 semaines et fournit un médicament qui atténue les nausées et les violentes douleurs que provoque l'arrêt des stupéfiants.
Quand est-ce que vous avez consommé de l'héroïne la dernière fois ?
Hier soir, en fait, un petit peu.
On a du tradozone et du Benadryl.
C'est lequel le plus fort ?
Le tradozone.
C'est difficile d'arrêter de consommer quand vous vivez dans la rue, donc on leur paie un endroit pour dormir la première semaine. Ensuite, leur corps s'habitue et les symptômes sont moins sévères. On les aide à trouver un endroit, mais on leur paye l'hôtel au moins la première semaine, parce que les effets sont vraiment très sévères. Donc oui, c'est difficile de s'arrêter quand vous vivez dans la rue.
Just because the symptoms are so severe. So yes, that's quite really difficult to detox when you're off the streets. When you're on the streets.
Jusqu'à récemment, les quartiers autour de Skid Row étaient vétustes et habités par des personnes aux revenus modestes. Mais depuis quelques années, le downtown LA devient un quartier aisé. À l'ouest, des restaurants chics attirent une clientèle huppée. À l'est, le Art District s'est développé dans des anciens entrepôts transformés en galeries d'art et boutiques de mode. Et au milieu de tout ça, Skid Row, dont les limites rétrécissent au gré des transactions immobilières liées au processus de gentrification. Pete White, le directeur de LA CAN, l'association qui défend les droits des SDF.
En ce moment, nous sommes assis dans la salle de réunion de la LA CAN, qui est en pleine rénovation. L'association a acheté ce lieu il y a 1 an parce que le phénomène de gentrification nous a chassés de tous les espaces de bureaux que nous avions dans le centre-ville de Los Angeles. Faisons un petit retour en arrière. On s'est battu contre, mais on savait qu'à un moment donné, on serait victime de la transformation du centre-ville historique dans lequel nos bureaux se trouvaient. Donc on a commencé à mettre de l'argent de côté et solliciter des dons pour racheter un lieu. Et c'est ce qu'on fait actuellement, c'est que l'on transforme cet endroit en un lieu d'accueil. Et toute la poussière que les gens ne voient pas en écoutant cette interview radio en vaudra la peine. Et tout le vacarme en vaudra la peine, parce que ce sera un vrai lieu de rencontre pour la communauté de Skid Row. Radio interview is going to be well worth it, and all the noise is going to be well worth it because it's going to be a truly community hub in space.
Okay, do you know that you know about the, have you heard about the C3 program?
À Skid Row, Deon Joseph est connu comme le Loup Blanc. Ça fait 18 ans que cet agent de police qui en impose arpente les rues de ce quartier. Quand on s'y promène à ses côtés, les SDF le saluent et il leur répond en les appelant par leur prénom. Deon Joseph tient un discours catégorique. Sa vision du quartier est très simple. Un enfer où se côtoient victimes et criminels.
Okay, right over there on San Pedro. I'm not on San Pedro, I'm an idiot. Skid Row attracts two groups of individuals.
Skid Row attire deux groupes de gens, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une cure de désintoxication. Les gens à Skid Row sont marginalisés, ils sont pauvres, ils ont un casier judiciaire. Ils sont obligés de venir à Skid Row pour trouver de l'aide, pour sortir de la drogue, et c'est très dur. L'échec est facile en raison de la présence du second groupe de gens attirés par ce quartier, les prédateurs. Il y a des gangs et des trafiquants de drogue qui viennent de tout le comté de Los Angeles et d'ailleurs pour profiter de leur faiblesse. Souvent, vous avez des trafiquants de drogue qui participent au programme de désintoxication ou qui sont juste là et ça contribue à la catastrophe. Et les deux groupes sont concentrés sur le même lieu. C'est pour cela que c'est extrêmement difficile pour les SDF de sortir de la rue. C'est la seule raison.
En attendant, la justice ne semble pas faire la différence entre les deux populations. Il y a 10 ans, la ville de Los Angeles a mis en place le programme Safer Cities Initiatives. L'objectif, sécuriser Skid Row en sanctionnant avec sévérité toute forme de délit commis dans la rue, y compris des délits mineurs. Pete White, le président de l'association LA Can.
Les 3 premières années du plan Safer Cities Initiative, il y a eu 36 000 convocations de justice. Si vous récupériez des objets à recycler dans une poubelle, vous aviez une amende. Si vous fumiez une cigarette, vous aviez une amende pour avoir jeté la cendre par terre.
Aujourd'hui encore, les SDF peuvent être interpellés pour avoir bu une bière ou uriné sur la voie publique.
Hi. Je m'appelle Elisa Hartz et je suis avocate à Public Counsel à Los Angeles.
Le Public Counsel est un centre de conseil juridique gratuit. Elisa Hartz y travaille notamment sur des dossiers de SDF qui ont un problème avec la justice. Elle raconte le cercle vicieux de ces hommes et de ces femmes qui sont libérés de prison au milieu de la nuit.
À minuit ou à 2 heures du matin, les gens avec des maladies mentales, ils sortent de la prison sans abri, sans aide, sans recours médical, sans rien, sans argent, sans famille. Et puis... Une semaine, 2 semaines après, ils se retrouvent encore une fois en prison.
Mais ceux qui se battent pour le droit des SDF marquent des points aussi. Désormais, les tentes sont autorisées la nuit sur les trottoirs de Skid Row. Et depuis environ 1 an, elles restent même installées en journée. Mais tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas une solution. En décembre 2015, un rapport commandé par la ville de Los Angeles proposait en une 50aine de points un plan pour gérer la crise des sans-domicile fixe. L'idée principale étant d'offrir à ces personnes un logement accompagné de soins et rompre le cercle infernal rue, puis prison, puis rue de nouveau. Mais ce programme ambitieux, s'il est appliqué, coûtera cher et prendra du temps à mettre en place. Jeff Thompson, employé au département administratif et financier de la mairie de Los Angeles, est l'un des auteurs du rapport.
We're looking at least a decade.
Ça devrait prendre au moins 10 ans. La façon dont on a élaboré le plan, le budget pour le plan, la partie logement est évaluée à 1,8 milliard de dollars qui doivent être financés par la ville de Los Angeles. Ça n'inclut pas les financements qui proviennent du comté de Los Angeles et du gouvernement américain qui peuvent être associés au fonds de la ville pour construire de nouveaux logements. Mais c'est un plan sur 10 ans et il est basé sur le recensement des SDF qui date de 2015. À partir de maintenant, le recensement va avoir lieu tous les ans. Avant, c'était tous les deux ans, donc on risque de voir les statistiques augmenter. La situation risque d'empirer avant qu'elle ne s'améliore.
Peu de temps après la sortie du rapport, le conseil municipal de Los Angeles a voté pour un programme d'aide aux SDF, proposant notamment l'installation de douches et toilettes portatives dans la ville. À Skid Row, ceux qui défendent les SDF soupçonnent la municipalité de vouloir les faire disparaître du quartier.
Skid Row is home, right? And so...
Skid Row, c'est chez nous, et c'est plus facile d'éloigner les gens d'un endroit qu'ils ne considèrent pas comme chez eux. C'est plus facile de les repousser d'un lieu dans lequel ils n'ont pas vécu très longtemps, où ils ne se sentent pas les bienvenus. Mais il y a des immeubles avec des lofts qui se construisent, et le sentiment, c'est que l'espace se réduit. Et plus il se réduit, plus les regards se focalisent sur le centre. Mais on est là, on a des plans, des idées, on a des exigences, et on va les réaliser. Donc on est là.
Et demain, grand reportage nous emmène en Chine avec Heike Schmidt dans l'un des nombreux villages de célibataires. À demain. How much a dollar really costs? The question is detrimental, paralyzed in my thoughts. Parasites in my stomach keep me with a gut feeling, y'all. Gotta see how I'm chilling once I park this luxury car. Hopping out, feeling big as Mutombo. 20 on pump 6, Dirty Marcellus called me Dumbo. 20 years ago, can't forget. Now I can lend him my ear or two. How to stack these residuals tenfold. The liberal concept that men do. 2006, he didn't hear me. Indigenous African, only spoke Zulu. My American tongue was leery. Walked out the gas station, a homeless man with a semi tan complexion asked me for 10 grand. Stressing about dry land, deep water, powder blue skies that crack open. A piece of crack that he wanted. I knew he was smoking, he begged and pleaded. Asked me to feed him twice, I didn't believe it. Told him beat it. Contributed money just for his pipe, I couldn't see it. He said, my son, temptation is one thing that I've defeated. Listen to me, I want a single bill from you. Nothing less, nothing more. I told him I didn't have it, then closed my door. Tell me how much a dollar cost. Staring at me, I grabbed my key. He's staring at me, I started the car, then I tried to leave. But something told me to keep it in park until I could see the reason why he was mad at a stranger. Like I was supposed to save him, like I'm the reason he homeless and asking me for a favor. He's staring at me, his eyes follow me with no laser. He's staring at me, I noticed that his stare is contagious. Cause now I'm staring back at him, feeling some type of disrespect. If I could throw a bat at him, it'll be aiming at his neck. I never understood someone begging for goods, asking for handouts, taking it if they could. At this particular person just had it down pack, staring at me for the longest until he finally asked, have you ever opened up Exodus 14? A humble man is all that we ever need. Tell me how much a dollar cost. Tripping and feeling resentment. I never met a transient that demanded attention. It got me frustrated, indecisive, and power tripping. Sour emotions got me looking at the universe different. I should distance myself, I should keep it relentless. My selfishness is what got me here, who the fuck I'm kidding? So I'ma tell you like I told the last bum. Crumbs and pennies, I need all of mine. And I recognize this type of panhandling all the time. I got better judgment, I know when niggas hustling. Keep in mind, when I was struggling, I did compromise. Now I comprehend, I smell grandpa's old medicine reeking from your skin, moonshine and gin. Nigga, you're babbling, your words ain't flattering. I'm imagining Denzel, but looking at O'Neal. Cause I'm in sad thrills, your gimmick is mediocre. The jig is up, I seen you from a mile away, losing focus. And I'm insensitive, and I lack empathy. He looked at me and said, your potential is bittersweet. I looked at him and said, every nickel is mine to keep. He looked at me and said, know the truth, it'll set you free. You're looking at the Messiah, the son of Jehovah, the high.